L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, tu l'as dit Nico, c'est déjà la dernière actu sur un plateau de la saison avant la grille d'été. Merci d'être à l'écoute de Radio Larzac et salut encore une fois Nico aux manettes.
Salut.
Alors, nous sommes aussi à la veille de la fête de la musique. Autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas en ce moment à Radio Larzac, car nous avons une scène qui est mise à disposition par la ville de Millau. Je vais vous annoncer un petit peu le programme vers la fin de l'émission. Mais pour commencer, je suis accompagnée de Lilou. Salut.
Coucou, ça va?
Oui, et toi?
Très bien.
Et il y a aussi Naila qui est en stage à la radio en ce moment et qui va nous rejoindre tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs toutes les deux fait un micro-trottoir sur le marché. Vous êtes allées interroger les gens sur leurs opinions sur la jeunesse d'aujourd'hui. On va écouter ça en deuxième partie d'émission. Juste après, une interview avec Anaëlle, trésorière de l'association du Château d'Arvieux, qui porte avec l'association Pueblo Latino le festival Pachamama. C'est la première édition cette année et ça se passe ce week-end, le samedi 22 et dimanche 23 juin. Dans cette émission également, un reportage à la manifestation antifasciste de vendredi dernier à Millau et une interview avec Rodolphe, directeur de la délégation d'Aveyron de la LPO Occitanie. Et il va nous parler donc de la faune sauvage et de comment la protéger. Ce sera avec toi, Lilou.
Oui.
Et ce sera juste après la revue de presse du nouveau numéro de Gardarem Le Larzac qui a été enregistré par Alex.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix. I worry the sun. Dans le dernier numéro du journal du Larzac solidaire Gardarem Le Larzac, l'édition numéro 377 de mai et juin, en une, nous pouvons lire un témoignage de Pascal André, médecin infectiologue, urgentiste qui revient de Gaza, où il a effectué une mission. Il a également témoigné au micro de Radio Saint-Afrique. Tandis qu'en dernière page, un appel à mobilisation pour la Palestine relaie les conclusions d'une étude en recherche sociale sur les manifestations qui constate que rassembler 3,65% de la population lors d'une manifestation garantit un impact positif. Un autre article revient sur le débat contradictoire organisé à Espalion par le comité Cause Comtale autour de la question « Le vautour est-il un prédateur ou un équarisseur efficace ?» Et sous une photo de Thibaut Salacroupe, on peut lire la légende suivante sur le Larzac « Ni les éleveurs ni les brebis n'ont peur des vautours ». Un article présente la BD Larzac, histoire d'une résistance paysanne et invite à démythifier la lutte. La BD est scénarisée par Pierre-Marie Terral, professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine à l'Université de Montpellier. Il travaille depuis plus de 10 ans sur le mouvement du Larzac et les dessins de la BD sont de Sébastien Verdier. Le journal nous parle également du spectacle Larzac de Philippe Durand qui se jouera au Festival d'Avignon au mois de juillet. L'article compile de nombreuses critiques élogieuses. Côté ciné, Gardarem Le Larzac de mai-juin revient sur la projection à Paris du documentaire de Véronique Garcia, Le Serment des 103, un film revenant sur la lutte. Et en lien avec les élections européennes, qui ne s'étaient pas encore déroulées, un article nous présente le film Une affaire de principe d'Antoine Rimbaud, relatant une affaire de corruption touchant la Commission européenne. Enfin, l'actu sur le Larzac, c'est aussi le festival Zikos du Larzac qui a programmé sa 3e édition le 15 juin et l'Assemblée Générale de la toute nouvelle association Nantes en Transition s'inscrivant dans le mouvement international des villes en transition qui s'est déroulé le 8 juin dernier. Merci aux auteurs et aux autrices de ces articles, Thomas Lezay, Jean Charalambeau, Monique Crinon, Pierre Voirin, Camille Darlet et Annick Julion. Nous essaierons à la rentrée de régulièrement présenter une petite revue de presse à chaque édition de Gardarem Le Larzac. En attendant, bonne manif, bonne lecture, bon ciné, bon jardin, bon été.
Voilà, merci Alex et merci à Gardarem Le Larzac pour éditer ce bimestriel indépendant et solidaire. Je rappelle que vous pouvez l'acheter au Marché Paysan, le magasin des producteurs locaux du Larzac et pas que, qui se trouve à Millau, dans les librairies de Millau, et il y a une copie aussi à Radio Larzac pour consultation sur place. Et vous pouvez aussi vous abonner en allant sur le site larzac.org. Alors Lilou, je me tourne donc vers toi pour recevoir notre invité Rodolphe Lieuzon. Bonjour.
Bonjour.
Alors Lilou, tu as voulu aborder la question de la faune sauvage en continuité avec la chronique que tu avais faite il y a quelques émissions déjà avec le centre de sauvegarde pour informer à la fois sur les actions de ces organismes de sauvegarde et de sensibilisation, mais aussi sur les gestes que tout le monde peut adopter pour préserver la faune.
Oui, c'est ça. Quels sont les principaux défis auxquels la faune locale est confrontée aujourd'hui ?
Alors, c'est pas une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi auparavant. Ce qui est certain, c'est que par rapport à la faune nationale, européenne et mondiale, on a quelques particularités en Aveyron. Notamment, on a une agriculture extensive qui est beaucoup moins impactante que l'agriculture intensive qu'on peut avoir dans la partie nord de la France, en Bretagne, etc. Quoique dans certains secteurs du département, comme les Rougiers, l'agriculture soit un peu plus intensive que sur le Larzac ou d'autres secteurs du département. Donc déjà, bon, c'est un critère sur lequel on est assez vigilant, mais pas craintif sur le département de l'Aveyron. Il y a des contraintes de territoire qui font que ça changera peu, probablement, dans les années à venir. Peut-être un des défis qui me semble le plus important, c'est ce qu'on appelle très généralement l'artificialisation des milieux. L'artificialisation des milieux, c'est quoi ? C'est utiliser des surfaces naturelles pour y construire des routes, pour y construire des parkings, des terrains de foot, des supermarchés, des zones d'activité diverses, etc. Mais aussi pour y mettre des panneaux photovoltaïques, pour y mettre des parcs éoliens, etc. Donc on voit par exemple passer des projets de plusieurs centaines d'hectares de parcs photovoltaïques dans le département de l'Aveyron. Et ces projets vont avoir un impact évident sur la faune et sur la flore. Alors ils n'auront peut-être pas un impact sur tout, peut-être même ils auront un impact positif sur certaines flores, certaines faunes. Mais en tout cas, comme toujours en biodiversité, ce n'est pas forcément les espèces les plus communes, les plus généralistes qui vont nous inquiéter, qui vont nous intéresser. C'est les espèces qui vont être dans des niches très spécialisées, des niches écologiques très spécialisées, et qui vont souffrir de l'arrivée de ces panneaux photovoltaïques ou de ces parcs éoliens ou de ces zones d'activité, etc. Donc voilà, je dirais que en gros, dans le département de l'Aveyron, on part pas du même niveau que dans la Beauce, par exemple, mais il faut qu'on soit vigilant à conserver nos espaces naturels, voire à les restaurer dans certains cas. Et il faut limiter cette artificialisation. Alors il y a des lois, ou en tout cas des orientations que prennent l'État, les collectivités pour limiter l'artificialisation. Notamment, il y a ce qu'on appelle le zéro artificialisation net. Ça vous parle ?
Oui.
Voilà. Donc l'idée, c'est d'arrêter de construire, mais en tout cas, quand on va construire sur des zones nouvelles, sur des zones naturelles, on va essayer de récupérer d'autres zones, on va essayer de compenser ces constructions. Puis il faut savoir aussi que, enfin je déborde un peu de la question, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans la rénovation de l'habitat existant, plutôt que de continuer à aller s'étendre sur des habitats naturels ou semi-naturels, comme les habitats agricoles du département.
D'accord. Est-ce que vous savez quelles sont les conséquences du changement climatique sur la faune locale et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour atténuer ces effets ?
Alors, je ne sais pas quels sont les effets sur toute la faune locale, parce qu'elle est variée, elle est vaste, la faune locale, mais je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, sur l'Aubrac, il y a une vipère particulière qui ressemble un peu à la vipère aspic qu'on connaît tous, mais qui s'appelle la vipère péliade. Et cette vipère vit en altitude, vit dans des zones qui sont plus froides que la vipère que vous connaissez tous. Et cette vipère, on constate, au cours des décennies, on constate qu'elle remonte en altitude dans l'Aubrac. Et il y a un moment où elle ne pourra plus monter plus haut, parce que c'est quand même limité, les monts d'Aubrac. Et donc on s'attend, à la fin du siècle, à ce que cette vipère disparaisse du département de l'Aveyron. On a d'autres exemples aussi du changement climatique. Par exemple, on a actuellement, je ne sais pas si certains l'ont déjà vu, on y a un gros papillon de nuit qu'on peut voir le jour qui s'appelle le bombyx du palmier. Donc, qui est un papillon qui est arrivé dans les palmiers, qui est arrivé en zone méditerranéenne, à Nice, je crois, à l'époque, et qui progressivement remonte vers le nord. Je pense que certains ont remarqué qu'il y a des cigales qui chantent maintenant un petit peu partout, à des endroits où ils n'avaient jamais entendu auparavant chanter les cigales. Hein. C'est-à-dire que les cigales, maintenant, on les entend très, très au nord. Et puis un dernier exemple, il y a un petit lézard, on va dire, qui s'appelle la tarente de Maurétanie. C'est pareil, c'est une espèce qui vient de pays méditerranéen et qui remonte depuis quelques années. On en a pas mal à Millau. J'en ai chez moi. On en a un petit peu partout à Millau et dans d'autres. Et progressivement, au cours des années, on voit que cette espèce remonte dans le département.
D'accord.
Donc ça veut dire réchauffement climatique, les espèces d'en haut, qui sont en bas, pardon, qui sont au sud, vont remonter. Par contre, les espèces qui vivent, qui ont besoin d'un peu de fraîcheur, vont disparaître.
Et comment les activités humaines, comme les constructions et l'agriculture, peuvent-elles être adaptées pour réduire leur impact sur la faune ?
Alors, les constructions, déjà, je l'en ai un petit peu parlé, c'est éviter d'aller sur les milieux naturels. Ce qui est important, c'est d'avoir des milieux naturels préservés. Je dirais pas qu'il faut densifier les villes, parce qu'il faut aussi des îlots de chaleur, il faut aussi de la végétation dans les villes, etc. Mais il faut veiller à préserver ces zones naturelles, à pas construire n'importe où. Encore une fois, on voit énormément de zones d'activité qui sont apparues en plein milieu de zones où il y avait personne. On se demande comment elles sont arrivées là. On se demande l'intérêt d'aller mettre des zones d'activité dans ces endroits. Je ne sais pas si elles fonctionnent bien, mais en tout cas, il vaut mieux concentrer ça autour des villes. Sur l'agriculture, donc encore, là aussi, je l'ai dit, on a une agriculture qui préserve relativement la biodiversité parce que c'est de l'agriculture extensive. On n'a pas des grands champs qui sont labourés, dans lesquels on met beaucoup de pesticides, dans lesquels on met une seule culture d'une céréale. On a une culture qui est une agriculture qui est beaucoup plus variée dans l'Aveyron, notamment sur le Larzac. Il y a quelques secteurs, je l'ai cité, qui sont un peu plus intensifs. Et en gros, ne changeons pas grand-chose sur les exploitations en culture extensive. Veillons à préserver les haies, le bocage. Veillons à pas retourner les pelouses sèches sur les causses, à pas concasser les cailloux pour essayer de faire des champs labourables, parce qu'on va supprimer une partie de la biodiversité remarquable. Hein. Encore une fois, il y aura toujours la biodiversité dans les champs retournés, mais celle qu'on veut chercher à préserver, c'est celle qui est rare au niveau européen, qu'on a chez nous presque communément. On a certaines orchidées chez nous qui sont relativement communes, mais qui ont un intérêt très très important au niveau national ou européen.
Quelles actions spécifiques recommande la LPO Occitanie pour protéger les espèces d'oiseaux menacées dans notre région ?
Alors ça fait beaucoup d'espèces d'oiseaux, ça fait pas mal, du coup ça fait chaque espèce ayant des écologies différentes, des problématiques différentes, c'est pas très évident hein, de donner des conseils. Moi je dirais qu'en tout cas les oiseaux des jardins, ceux qu'on a à proximité de chez soi, il faut veiller à avoir on va repartir un peu sur les mêmes idées d'avoir une végétation variée. Alors par exemple, si vous avez une pelouse, n'hésitez pas à laisser un petit coin, ça dépend de la surface que vous avez. Si vous avez 400 mètres carrés, vous avez peut-être besoin de tout ratisser, tondre. Mais si vous avez un peu plus que ça, laissez des petits coins où vous laissez l'herbe pousser. Par exemple, vous tondez très tôt en saison, et puis vous laissez les fleurs ensuite apparaître au mois de mai, au mois de juin. Vous laissez les fleurs apparaître, elles vont faire des graines, les pollinisateurs vont venir sur ces fleurs, vont les polliniser, vont vivre aussi. Il y a beaucoup d'abeilles sauvages qui sont en voie de disparition parce qu'elles manquent de ressources. Et donc ces petits coins de nature que vous pouvez laisser dans un jardin sont intéressants. Voilà, c'est un premier conseil que je donnerais. N'intervenez pas trop sans arrêt sur la nature. Intervenez sur les zones où vous avez envie d'avoir un petit espace pour vous allonger dans l'herbe ou pour aller faire un barbecue avec les amis. Mais ne coupez pas tout, ne rasez pas tout. Faites des tas aussi de bois plutôt que de brûler ou de déchiqueter le bois. Déchiqueter le bois, ça demande des machines, ça demande de l'essence, donc ça dégage du CO2, enfin bref, faites un tas de bois, ça servira pour les reptiles, ça servira pour les amphibiens, pour les hérissons, ça servira à un tas de monde, et puis c'est pas moche.
Quel est le rôle de l'éducation, de la sensibilisation dans la protection de la faune, et quel programme proposez-vous, la LPO du coup, pour le grand public ?
Alors nous, on a, à la LPO, on a deux animateurs. Les premières personnes qui ont été embauchées à la LPO en Aveyron, c'était des animateurs. Et c'est un sujet qui est vraiment essentiel. Par contre, j'ai souvent cette conversation avec mes collègues, c'est que des fois, on se demande à quoi on sert, parce que on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'impact, hein, sur le public. Et en même temps, ben, du coup, on répond par l'absurde, c'est-à-dire que si on n'était pas là, personne n'entendrait parler de nature, personne n'entendrait parler de protection de la nature, de comment on peut essayer de faire. Donc je dirais que le rôle de l'éducation à la nature, c'est au moins d'être là et au moins d'essayer de toucher les gens qui sont un petit peu sensibles. Et la grosse question, la grosse envie qu'on aurait tous, hein, c'est d'aller sur beaucoup de sujets, d'ailleurs pas que sur la nature, mais c'est d'essayer d'intéresser des gens qui a priori sont pas intéressés par ce sujet. Donc on a un programme pour le grand public. On peut aller sur... Alors d'abord, on a un programme de sortie qui est généralement diffusé dans les offices de tourisme, qui est semestriel. Donc là, le prochain va pas tarder à apparaître. Hein, il va apparaître début juillet. Donc vous le trouverez à l'office de tourisme de Millau, de Sainte-Afrique, par exemple. Et on a aussi sur Internet un petit... on appelle ça un petit widget qui nous permet de vous communiquer, enfin de communiquer aux gens nos sorties nature. Vous pouvez choisir par secteur, par date, par type de sortie, par département, même puisqu'on est une association régionale depuis quelques années, vous pouvez choisir des sorties. Donc allez sur le site de la LPO, LPO Aveyron, ou LPO Occitanie, et vous trouverez ce petit rendez-vous, cet agenda nature.
Quels gestes simples les citoyens peuvent-ils adopter au quotidien pour aider à protéger la faune ?
Alors là encore, la question est vaste, parce que quel geste simple, encore une fois, enfin je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas chercher forcément à détruire, chercher à connaître. On a tendance à vouloir, quand il y a un serpent, à vouloir le tuer par exemple. Alors qu'il faut savoir que la plupart des serpents qu'on croise, c'est des couleuvres. Qui vont pas vous mordre, ou si elles vous mordent, vous aurez la trace des dents, mais elles vont pas pouvoir vous injecter de venin parce que leur crochet est trop profondément ancré dans la gorge. Et puis même si une vipère vous mord, vous n'avez pas non plus beaucoup de chance d'en décéder. Hein. On meurt plus à la limite de piqûres d'abeilles que de morsures de serpents en France. Donc ne cherchez pas à détruire ce que vous connaissez pas. Il y a des tas de gens que ça intéresse. Il y a des tas de gens qui n'ont pas peur des serpents, qui n'ont pas peur des insectes, par exemple. On a tous un peu peur de se faire piquer par un insecte. Mais quand on commence à connaître les insectes, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup finalement qui sont équipés pour vous attaquer. Hein. Il y a des insectes qui sont tout à fait herbivores, hein. Les cétoines par exemple que vous trouvez sur les fleurs, il y a les papillons, qui mangent du nectar, et puis même une abeille, ça vous attaque si vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, si vous avez fait peur à l'animal. Donc ça c'est vraiment peut-être un conseil, c'est surtout ne tuez pas, ne détruisez pas les fleurs, c'est déjà pas mal, et puis cherchez à aller mieux les connaître, notamment avec la LPO ou avec d'autres associations naturalistes, il y a le CPIE, il y a d'autres associations qui aident à connaître la nature. Cherchez à connaître, vous aurez moins peur et vous vivrez heureux dans une nature complète.
Et comment les jardins et espaces verts urbains peuvent-ils être aménagés pour favoriser la biodiversité ?
C'est un petit peu les conseils que je donnais tout à l'heure pour le jardin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans une commune, chercher à faire de tous les espaces des gazons. En fait, il faut essayer de conserver des herbes hautes, des fleurs, laisser les fleurs aller jusqu'au bout, faire des graines, ressemer leurs graines, et après on coupe, par exemple à l'automne, enfin de l'été, début de l'automne. Alors je ne dis pas que tout le parc doit être comme ça, mais il faut des zones comme ça dans le parc. Après, il faut penser à... Alors dans un parc, c'est un peu compliqué, mais il faut penser à laisser des arbres vieux aussi. Un arbre vieux, un arbre mort dans le paysage, certains trouvent ça un peu sinistre. En fait, c'est plein de vie. Il y a des coléoptères qui se mettent dans ces arbres, il y a des chauves-souris, il y a des oiseaux, des piques par exemple, qui peuvent aller dans ces arbres. Donc ce sont des endroits qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on imagine. Donc voilà, laisser de l'air pousser, laisser des vieux arbres, faire des tas de branches, comme je disais tout à l'heure. Créer des points d'eau aussi pour la faune. C'est bon pour les libellules, c'est bon pour les amphibiens qui sont en voie de régression très forte. Hein. Vous savez qu'il y a une espèce d'amphibien dans le monde sur quatre qui est menacée d'extinction. Bon, je pourrais citer des chiffres comme ça sur beaucoup de groupes d'espèces, mais les amphibiens, c'est important aussi. Voilà, quelques petits conseils. Les collectivités peuvent devenir refuge LPO. On avait tenté il y a quelques années avec la commune de Millau. Il y avait un très beau projet d'un élu qui voulait faire du lien intergénérationnel entre une maison de retraite, un lycée, la LPO, un jardin public. L'idée, c'était que les citoyens se réapproprient une école. L'idée, c'était que les citoyens se réapproprient les jardins publics et que la LPO vienne aider à aménager ce jardin, vienne former les retraités, les gens qui sont en maison de retraite à l'entretien des nichoirs, des mangeoires, etc. Et qu'ensuite, ces gens soient capables de refaire chaque année la même chose avec des élèves d'école. Donc l'idée, c'était aussi de donner une certaine utilité à ces gens qui sont en maison de retraite, qui s'ennuient. Et donc aussi d'intéresser, de faire du lien entre les plus jeunes et les plus vieux autour d'un jardin.
Et est-ce qu'il y a des lieux qui sont refuges LPO, par exemple autour de Millau ou en Aveyron ?
Oui, des refuges LPO, alors vous en trouverez... Il y a eu des parcs sur la communauté de communes de Millau, mais bon, la convention n'a pas été renouvelée. Je saurais pas vous dire exactement où il y en a, mais il faut savoir qu'on a plus de 400 hectares dans le département de refuges LPO. On a énormément de gens qui s'intéressent à ça, ou de collectivités ou d'entreprises. Je sais que par exemple que la commune de Roquefort est intéressée par devenir refuge LPO. Je sais que la commune de Combray aussi est intéressée par ces thèmes-là. Donc, n'hésitez pas, commune ou particulier, à contacter la LPO si vous avez envie d'en créer un.
Comment signaler de manière appropriée un animal blessé ou en détresse ?
Alors, ça, le mieux, c'est de contacter nos collègues. J'ai donc entendu en introduction que vous aviez fait une interview du Centre de sauvegarde de la faune sauvage de Millau. Eux, c'est une association qui sont spécialisées. Ils ont des autorisations pour maintenir des animaux blessés, pour les soigner. Ils ont des formations. C'est pas n'importe qui hein, qui peut soigner des animaux et ils ont tous les équipements pour ça. Ils ont des volières, ils ont pas mal de choses. Donc contactez le centre de sauvegarde de Millau. Alors vous pouvez contacter la LPO, il n'y a pas de problème, mais on vous renverra toujours sur le centre de sauvegarde qui est l'association spécialiste du recueil des oiseaux blessés et qui a besoin de beaucoup d'aide d'ailleurs, hein, aussi bien d'aide bénévole que d'aide financière pour exister.
Et ma dernière question est un peu redondante, mais on ne sait jamais que vous pourriez nous annoncer de nouvelles informations. Quels conseils donneriez-vous pour cohabiter harmonieusement avec la faune sauvage dans les zones résidentielles ?
Alors, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, l'information, déjà. Alors, conseil pour cohabiter. Déjà, on peut intégrer la faune dans le bâti. Là, j'ai récemment, là, une jeune architecte de Millau m'a contacté pour me demander comment intégrer des gîtes à chauves-souris ou des nichoirs à oiseaux dans des projets de rénovation énergétique de bâtiments. Vous savez, quand on fait de l'isolation par l'extérieur. Donc ça, c'est des démarches qui sont chouettes. Donc, on peut intégrer la faune dans le bâti. On peut attirer les chauves-souris, on peut attirer les oiseaux, on peut aussi même, pourquoi pas, avoir des coccinelles, on peut avoir de la végétation sur les toits. Mais ce qu'il faut faire avant tout, c'est faire comprendre aux gens que ce qui est autour d'eux ne va pas les agresser. Hein. Même s'il y a un serpent qui se balade dans un lotissement, il ne faut pas non plus ameuter tout le monde, ce n'est pas très grave. Il y a probablement une couleuvre qui se balade et qui est tout à fait inoffensive. Donc la connaissance, l'information est très importante.
Merci beaucoup Lilou.
Ben, de rien.
Et puis merci donc Rodolphe Lieuzon. Je rappelle que tu es donc directeur de la délégation d'Aveyron de la LPO Occitanie. Et vous pouvez aller aussi sur le site pour retrouver les infos qu'on vous donne. Et pour la suite de cette émission, je vous propose un sujet différent mais néanmoins lié. C'est un reportage que j'ai réalisé lors de la manifestation antifasciste et contre l'extrême droite à Millau vendredi dernier, suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et à la montée aussi du Rassemblement national lors des élections européennes du 9 juin. C'était cette manifestation à l'appel des partis, associations, syndicats de gauche et je suis allée demander aux gens comment ils se sentent en ce moment de tension et de bascule peut-être dans le paysage politique français.
et me dire pourquoi vous êtes là ce soir.
Contre la haine, le racisme, contre toute cette, tout ce qui est l'extrême droite, quoi, voilà,
pour contrer le Front National, parce qu'on ne veut pas de ça.
Moi, je suis là, je suis paysanne et je suis à la Confédération paysanne. Bah, comme tout le monde, un peu, quand on a vu les résultats de dimanche, ça a été un gros choc. Voir le Rassemblement National aux portes du pouvoir, ça fait peur. Et il y a une urgence à réagir et à manifester et à empêcher que ça se passe. Donc il y a un petit point positif qui est le Front Populaire et l'union qui s'est faite à gauche pour empêcher que le Rassemblement National puisse faire des dégâts et puisse être à un poste de pouvoir. Et à la Confédération paysanne, on est contre le Rassemblement national, clairement. Et c'est pour ça qu'on est là, nombreux, avec des drapeaux à cette manifestation et qu'on soutiendra tous les appels syndicaux à manifester. Clairement, on ne se retrouve pas du tout sur les positions du Rassemblement national. Eux, ils ont voté par le passé beaucoup de choses qui n'étaient pas en cohérence avec une agriculture paysanne telle que le défend la Confédération paysanne. Et ils ont clairement voté des mesures qui n'aident pas à l'installation de paysans, qui n'aident pas aux agriculteurs à avoir un revenu digne pour pouvoir exercer leur activité. Et donc c'est pour ça que nous, on est présents contre le Rassemblement National.
Dis-leur que ça nous fait du bien.
Comment vous vous sentez ?
Très mal. C'est l'européenne, c'est pas local, mais sur le local quand même, 93% de villes qui ont voté pour le Front National en tête, c'est terrible. Mais c'est pas étonnant parce que les médias n'ont fait que de... Ils étaient omniprésents, ils étaient tout le temps là, et tous les gens qu'on rencontre qui nous disent « Ah oui, mais j'ai écouté BFM, j'ai entendu que... » C'est pas étonnant, comme ils sont à la botte de Bolloré et compagnie, des grosses fortunes, c'est pas étonnant.
Pas trop bien, mais avec beaucoup de détermination et beaucoup de l'espoir.
Fébrile, moi j'ai 43 ans, j'étais jeune, je militais à Ras le Front, un mouvement contre le Front National, je me retrouve dans une manif contre le Rassemblement National 30 ans après. L'impression de ne pas avancer, mais qu'eux, ils avancent vraiment fort et que, ouais, on est à un moment bascule à plein de niveaux en ce moment, ça fait peur. J'ai des enfants, ben, je les amène aux manifs et puis j'essaye de transmettre la nécessité de réagir et de se mobiliser collectivement pour empêcher ces gens-là d'être en mesure d'exercer des politiques désastreuses pour l'agriculture et de manière plus générale pour la société.
Troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés.
Je crois qu'il y a une petite fenêtre qui est en train de s'ouvrir et que ce piège qu'Emmanuel Macron a tenté de faire dimanche ce soir est en train de se retourner contre lui grâce à l'union qui vient de se faire. Alors essayons de lui prouver qu'il existe encore dans ce pays des gens qui croient fermement à la fraternité, à la liberté et au peuple. Nous comptons tous sur tout le monde pour ne pas rester à la maison, pour ne pas s'abstenir. Il ne faut pas rester chez soi et laisser le bruit des bottes grandir de plus en plus. Il faut se motiver absolument le 30 juin pour aller voter.
Voilà, c'était à la manifestation antifasciste de vendredi dernier à Millau. Et comme vous venez de l'entendre, les élections législatives se déroulent donc le 30 juin et 7 juillet. Et il est encore temps de faire votre procuration si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes. C'est sur maprocuration.gouv.fr et c'est à faire avant le 27 juin. Et pour faire le lien avec le sujet de la faune sauvage qu'on vient d'entendre juste avant, et ben Rodolphe vient de me dire que sur le site de l'LPO, il y a un classement des actions et des programmes des partis en fonction de leurs actions et de leurs propositions pour protéger la faune sauvage. Et c'est l'heure maintenant pour notre émission de la pause musicale, aujourd'hui avec Obidaya, un groupe de reggae qui nous a été conseillé par Anthony, un bénévole, et leur morceau « Listen to each other », un titre qui m'a paru approprié en ce climat politique tendu. All right.
what the army say, I say to be clothed. You got to listen to each other. You want to play together, yeah. Listen to each other, 'cause we got to play together. It's not all about the man who sing louder.
Retour dans l'actu sur un plateau, c'était Obidaya, un groupe de reggae qui va bientôt sortir un nouvel album, New Chapter, à suivre donc. Et entre-temps, c'est Anaëlle qui nous a rejoint au téléphone. Salut Anaëlle.
Bonjour Sophia, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, tu es trésorière de l'association du Château d'Arvieux qui propose avec l'association Pueblo Latino le festival Pachamama qui se déroule dans le parc du Château d'Arvieux donc dès ce vendredi 21 juin et jusqu'à dimanche 23. C'est un festival pour mettre à l'honneur à la fois les initiatives écologiques locales et les femmes artistes et musiciennes. Et ce concept porte bien son nom car le festival s'appelle Pachamama, on l'a dit, la terre mère dans les cultures sud-américaines. Alors pour commencer, Anaëlle, comment ça va? Comment avancent les préparatifs?
Eh bien là, on est en direct depuis la cuisine où on travaille depuis ce matin sur toute l'épluche des légumes, les cuissons des sauces tomates, les fabrications des pâtes, puisque tout le repas qu'on va faire est 100% bio et locavore. Voilà, avec un esprit zéro déchet, aucun emballage à jeter, etc. On est super contents de nous, on travaille bien. Le chapiteau est installé depuis hier parce qu'on ne savait pas trop au niveau du climat comment ça serait aujourd'hui sur le lait des ours. Mais a priori, on a une belle journée. Donc pour l'instant, tout s'annonce plutôt bien.
Super. Alors donc, on l'a dit, ce festival naît de l'union entre l'association du Château d'Arvieux et Pueblo Latino. Comment vous avez eu envie de vous unir pour proposer ce festival ?
Alors, l'association du Château d'Ardieu, c'est notre troisième édition de festival dans le parc du château. Et on a discuté avec l'association Pueblo Latino qui, eux, faisaient un festival autour de la musique latine une année sur deux. Et puis, on s'est dit que comme on était dans un petit village de 800 habitants et que c'était pas toujours évident de mobiliser les forces vives pour avoir suffisamment de bénévoles pour nous aider, et que ça serait sympa qu'on fasse l'événement de cette année ensemble. Donc, d'où la fusion entre les modes de vie durables que représente en fait l'association du château et la culture de musique latine que représente l'association Pueblo Latino.
Avec aussi l'idée de mettre à l'honneur surtout les femmes dans la musique donc sud-américaine.
C'est ça. Tous les ans, en plus des modes de vie durables présentés par l'association du château, on essaye de parler également de tout ce qui peut être transition sociale. Et il nous a semblé opportun, avec Pueblo Latino, sur ce, de parler un peu de la transition au féminin, de laisser les femmes un peu à l'honneur. Donc, on aura des scènes 100% féminines et on organise des tables rondes aussi dans la journée autour de l'entrepreneuriat au féminin en milieu rural.
Et ce festival m'a fait penser aussi à une démarche écoféministe, donc ce courant féministe selon lequel la domination sur le vivant et sur les femmes et les personnes de genre minorisées ont une matrice commune. Est-ce que ça a fait partie de vos réflexions quand vous avez eu l'idée de ce festival ?
Bien sûr, il est évident que, enfin, on peut pas, il nous semble, mettre en place de transition écologique si on n'en passe pas également par une transition sociale quelque part, et si on réfléchit pas à la place de chacun au sein de nos écosystèmes pour ensuite pouvoir faire ensemble vers un monde plus durable.
Alors, pour parler un peu plus de la programmation, ça commence ce vendredi soir à l'occasion de la fête de la musique. Donc, il y a une scène ouverte à partir de 19h à plusieurs artistes et pour finir, une jam session.
C'est ça. On a 12 groupes qui sont déjà inscrits au préalable. Donc, on a déjà une belle scène qui est programmée. Pas mal de musiciens qui nous ont contactés pour venir jouer, donc c'est assez cool. Et l'idée, c'est qu'après, on laisse en fait le plateau de musique ouvert pour une jam, ce qui fait que bon, on aura une batterie, on aura un piano, on aura pas mal d'instruments disponibles sur place avec les ingé-sons qui s'occuperont de faire la technique sur la jam. Et on a également une buvette et une restauration sur place ce vendredi.
Avec les repas donc que vous êtes en train de cuisiner.
Exactement. Alors, on repart au Cavor.
Voilà. Et donc le samedi, toute la journée, il y a un village des alternatives écologiques et de l'artisanat sur le parc du château. Et ensuite, à 17h, une initiation au tango et une démonstration de flamenco. Et puis ensuite, un concert de Marura Limon qui viennent tout droit de Barcelone. C'est un groupe de 6 femmes dont les influences oscillent entre flamenco, pop et les rythmes latins. Qu'est-ce qui vous a amené à les programmer ?
Et parce qu'on voulait une scène justement vraiment féminine, qualitative. Faut savoir que ces femmes qui viennent de Barcelone vont faire un tour d'Europe. Elles commencent à vraiment être connues. On les a vues aux Vieilles Charrues il y a 2 ans. On les a vues programmées sur pas mal de gros festivals en France. J'ai envie de dire ces 2-3 dernières années. Et cette année, leur seul passage en France sur la saison estivale sera à Arvieux. Donc c'est vraiment à ne pas louper. Elles ont des textes très engagés. Elles chantent en espagnol. Elles comprennent assez bien le public français. Elles ont déjà joué plusieurs fois en France, donc ça nous semblait correspondre vraiment et à notre envie de faire jouer des femmes et également de représenter la musique latine. Je voudrais juste apporter une petite précision concernant le village des initiatives dont tu viens de parler. Donc on aura une dizaine d'artisans qui viendront proposer des produits éco-responsables en fabrication locale. On aura également toutes les associations arvionnoises, notamment nos Fab Labs, nos clubs bidouilles, vous pourrez venir, il y aura des permanences si jamais vous avez des objets à faire réparer plutôt que de jeter. Et pas mal d'associations sportives qui proposent des interventions sympas. On a une association qui parle de l'astronomie aussi, donc il va y avoir des observatoires du soleil, il va y avoir de la grimpe dans les arbres, des balades à cheval et en calèche. Donc voilà, pas mal d'animations tout autour de toute la journée. Et également un petit village bien-être où on pourra faire du do-in, du yoga, chai-su, massage et d'autres petits moments de détente.
Ouais, ça s'annonce bien, bien riche comme programmation. Et puis, c'est pas fini parce que le soir, il y a aussi un DJ set avec Juanita Bananas, qui, elle, elle vient d'un peu plus près, de l'Ariège.
Oui, c'est quelqu'un qui est déjà venu sur Arbieu, qu'on connaît bien, qui anime pas mal de cours de danse salsa flamenco sur le coin quand elle peut. Donc, on trouvait ça assez chouette de la faire venir et puis de pouvoir prolonger la soirée jusqu'au plus tard possible.
Et puis le dimanche, c'est un brunch, toujours en musique. Et puis aussi, il faut dire que l'ensemble du festival est gratuit.
C'est ça, on tenait à faire vraiment un festival accessible. On s'est assez battu pour pouvoir avoir un petit peu de sous par-ci par-là pour nous aider à le financer. Et donc, les seules recettes qu'on fait sur le festival, c'est sur le repas et sur les boissons. Sachant que pareil, on essaye d'être accessible quand même sur le menu, puisqu'on a un menu adulte à 8 euros et un menu enfant à 5 euros, qui prend le plat et le dessert, tout en végé. Et pour les carnivores convaincus, ne vous en faites pas, on a transformé nous-mêmes nos charcuteries l'hiver dernier au château, et donc il y aura sur place vente de plateaux de charcuterie pour l'apéro, pour ceux qui tiennent vraiment à manger du carne.
Merci Anaël. Alors, est-ce que tu veux ajouter des infos pour ce festival Pachamama ?
Il y a la possibilité de pouvoir dormir sur place. On a un petit camping municipal qui est juste à côté, à 300 mètres. Et une petite chose, aucune voiture ne pourra accéder vraiment jusqu'au site du château. Donc, il est important de se garer en bas à la salle des fêtes.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous, Radio Larzac. Et merci à tous les auditeurs.
Oui, et puis on peut rappeler les infos pour ce festival Pachamama. Donc c'est ce week-end, ça commence demain soir, le vendredi 21 jusqu'au dimanche 23. C'est à Arvieux, dans le parc du château. Et c'est organisé par l'association du château d'Arvieux que tu représentes en tant que trésorière et par l'association Pueblo Latino. Et il y a aussi tout le programme et tout ce qu'on vient de dire disponible sur pueblo-latino.fr. Merci.
Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée. Alors, bonjour Naila, tu nous as aussi rejoint en studio. Alors, c'est à toi maintenant, puisque, comme on disait au début de l'émission, tu as fait un micro-trottoir. Alors, est-ce que tu veux nous le présenter ?
Oui. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Larzac. Je vous ai présenté mon micro-trottoir. J'ai voulu faire ce micro-trottoir pour avoir un autre point de vue sur ce que les gens pensent de la jeunesse d'aujourd'hui. J'entends beaucoup dire que les jeunes passent beaucoup de temps sur leur téléphone et je voulais comprendre si c'est vraiment ça que les adultes pensent de la jeunesse d'aujourd'hui. Pour commencer, nous avons posé la question « Quelle est votre opinion générale sur la jeunesse d'aujourd'hui ?» Je vous laisse écouter les réponses de quelques mi-voix au marché.
Elle est super. Elle est motivée, elle est combattante, elle est écolo, elle est dynamique, mais elle n'a pas de chance.
Oh, j'en suis un peu loin, je n'ai pas d'enfants et pas de petits-enfants, mais j'ai beaucoup travaillé pour la jeunesse toute ma vie. Mais je pense qu'elle est très inquiète et qu'il y a de quoi. Voilà, beaucoup plus que de notre, quand moi je suis jeune, mais j'ai 73 ans, on dit.
Et je pense que la jeunesse va souffrir pour le futur.
Voilà une bonne opinion.
Oui, excellent.
Je pense qu'ils adhèrent davantage au projet des boomers, comme vous les appelez.
Ils ne se laissent pas trop manipuler, je trouve, les jeunes.
Il y a bien deux catégories. Toujours. Celle qui est sérieuse, celle qui l'est moins.
Rien de spécial à dire. De toute façon, on a toujours critiqué. Oui, c'était toujours mieux avant, mais en fait, non, les jeunes, ils s'en sortent bien.
La jeunesse de maintenant, je la trouve sensiblement un peu plus informée sur plein de questions liées à leur orientation sexuelle, à leur genre. De manière générale, je trouve qu'il y a plus matière à être originale.
Je trouve qu'ils sont trop fourrés dans leur téléphone, dans leur truc comme ça. Il n'y a plus aucun contact. On rentre quelque part, on salue, personne ne vous répond. Tout le monde est plongé dans ça. C'est plus la jeunesse que nous, on avait.
Eh bien, elle est parfaite. C'est OK, quoi.
Ils sont trop formatés par les médias.
Ensuite, ils nous ont parlé des comportements négatifs ou positifs des jeunes d'aujourd'hui.
Préoccupant, c'est leur avenir, moi qui me fais peur. Et puis, autant je trouve qu'ils sont très engagés, mais ils votent pas. Et ça, je trouve que c'est dommage.
Alors, positif, ils s'investissent pas mal.
et préoccupant la violence.
Je côtoie pas de jeunes, moi. Alors, je peux pas dire... Sauf les jeunes qui sont agressifs. C'est ça le plus grave. Hein.
Angoissé, je trouve, quelquefois, les jeunes, un petit peu par rapport à leur avenir. C'est un peu préoccupant. Oui, peut-être. Ils sont pas si gâtés que nous. Nous, on n'a jamais connu le chômage. Et peut-être que maintenant, il y a un peu plus d'angoisse quand même.
Il n'y a plus de respect avec les jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils viennent te voir, salut, ça va, c'est wesh, c'est comme si tu avais toujours connu alors qu'ils ne t'ont jamais connu.
Dans le positif, je dirais ça, que j'ai l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui s'affirme en tant que telle, avec des idées bien précises qui cassent un peu avec le système traditionnel français. Par contre, au niveau préoccupant, je vais peut-être être vieux jeu, mais franchement, ce serait les réseaux sociaux et les téléphones, quoi. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a énormément de temps passé là-dessus et ça fait peur.
Je les trouve préoccupants, hein, parce que quand on voit tous ces jeunes qui agressent les jeunes, les vieux, alors je comprends pas ça. Moi, vous savez ce que je ferais, moi ? Un jeune qui agresse, j'y coupe la tête. Moi, je mets la guillotine en place. Terminé, on ne fait pas assez d'exemples. Et ça recommence, on ne leur fait rien. Mais c'est grave, ça, hein, quand même. Vous vous promenez, mais je parle pas pour moi, mais maintenant, je m'en fous, l'âge que j'ai. Mais dans les lycées, tout ça, quand ils se foutent des coups de couteau entre eux, là, qu'est-ce que c'est que ça ?
Et enfin, on a demandé aux passants et passantes de donner un conseil aux jeunes d'aujourd'hui.
Eh bien, de rester optimiste et de se battre. Bon courage.
Pour rien lâcher.
De se mobiliser pour le climat. Continuer. Ils ont déjà fait beaucoup, beaucoup. Continuer, faire des alliances avec ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la mobilité, c'est essentiel.
De prendre leur temps, de réfléchir, de profiter de la journée complète, de faire le bilan à la fin de la journée pour savoir s'ils ont pris du plaisir à faire cette journée correctement, tranquillement, avec de la bienveillance.
Continuez à suivre vos envies, votre chemin, voilà. Et surtout ne vous laissez pas trop guider par ce qu'on voudrait de vous. Restez vous-même. Vous êtes souvent des belles personnes.
Vivre votre vie.
Ouais. Comme on dit, quand on vole, il ne faut pas voler trop non plus, il ne faut pas planer. Quoi.
C'est pas la peine d'arriver le premier quand on laisse tous ses copains derrière.
Qui se respectent, ils respectent les autres.
Soyez vous-même, peu importe les dires, soyez vous-même, soyez heureux.
D'entretenir ses amis, d'être fort, d'être plein d'espoir, c'est surtout ça en fait.
Les réponses étaient plutôt positives. Les personnes interrogées ont une bonne opinion de la jeunesse d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'avis positifs. Cependant, je pense que les gens qui font le plus confiance à la jeunesse, ce sont aussi ceux qui ont le plus de relations et d'interactions avec les jeunes. Ceux qui m'ont donné des réponses négatives n'ont pas beaucoup de contact avec la jeunesse et répondent selon les clichés qui imposent la société. La réponse la plus inattendue était « les jeunes qui agressent, il faut leur couper la tête ». Sur le moment, c'était une réponse pas spécialement choquante, mais après, je me suis dit que c'est violent et je pense que les personnes les plus âgées pourraient apprendre des choses aux jeunes et les jeunes pourraient apprendre aux plus vieux. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit que les jeunes sont violents. Moi, en revanche, je pense que la violence n'a pas d'âge et que les jeunes ont chacun leur propre personnalité. Est-ce que ça t'a plu, Naïla, de faire ce micro-trottoir, cet exercice ?
Oui, ça m'a plu parce que déjà de une, ça m'a aidé à être moins timide et que après le contact avec les gens, c'était bien.
Ben super, merci beaucoup.
De rien.
Alors c'est déjà presque la fin de cette émission et aussi de cette saison pour l'actu sur un plateau. Mais alors il n'y a pas de rediffusion demain puisque nous serons en direct, mais il y aura peut-être des rediffusions cet été, je crois, dans la grille d'été.
Nous serons en direct de la fête de la musique, hein, pour préciser.
Oui. Et oui, comme je vous disais en début d'émission, c'est la fête de la musique demain. Donc on a une scène sur la place des Halles à Millau, mais il y a aussi plein d'autres scènes à Millau. Par exemple, place Foch, sur le boulevard Sadi Carnot, devant l'entrée du Créa, avec tous les clubs de musique du Créa qui vont se produire. Sur la place du Mandarou, au café-concert La Loco, sur le jardin de la mairie également. Et puis il y a aussi des groupes qui vont se déambuler, comme la Batucada Samba Millau, et aussi la chorale Polysong. Mais nous, voilà, on sera sur la place des Halles. On sera aussi en direct sur les ondes si jamais vous ne pouvez pas venir. Et on commence à 19h et puis ça finit à minuit, peut-être même un peu après. Et on a aussi une buvette et une restauration locale. Là, les fûts viennent de nous être livrés. Et puis voilà, je remercie pour cette émission nos invités, donc Rodolphe Lieuzon de la LPO, Anaël du Château d'Arvieux, merci beaucoup à Lilou et merci à toi aussi Naïla. Et puis merci à toi Nico.
Oui, et Alex pour sa petite revue de presse autour de Gardarem Lollarzac.
Et donc je disais pas de rediffusion, mais toujours le podcast sur radiolarzac.org. Et puis bel été à vous, c'est le solstice demain et puis il y a toute la grille d'été qui va arriver à partir de juillet. Donc on vous abandonne pas. À bientôt.
Au revoir.